Emmanuel Kant. Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée? Tiré de l'ouvrage Mélange de logique, 1862. Traduction par Joseph Tissot. Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée? 1786. Si haut que nous puissions porter les notions, et nous éloigner ainsi de la sensibilité par l'abstraction, toujours, cependant, s'y attacheront des représentations sensibles, dont la destinée propre est d'approprier à l'usage de l'expérience des notions qui, d'ailleurs, ne sont pas dérivées de l'expérience. Comment, en effet, voudrions-nous donner aux notions sens et signification si quelque intuition, qui, à la fin doit toujours être un exemple pris d'une expérience possible, ne leur était soumise. Si donc après cette opération concrète de l'entendement, nous omettons le mélange de l'image, d'abord de la perception contingente des sens, ensuite, même l'intuition sensible pure en général, il ne reste que cette notion intellectuelle pure dont l'étendue se trouve maintenant agrandie et qui contient une règle de la pensée en général. La logique générale elle-même a été faite de cette manière, et dans l'usage expérimental de notre entendement et de notre raison, est peut-être encore cachée une méthode heuristique de pensée telle que, si nous savions la tirer habilement de cette expérience, elle pourrait bien enrichir la philosophie de plusieurs maximes utiles, même pour penser abstraitement. De cette sorte est le principe expressément reconnu par feu Mendelssohn, mais, autant que je sache, seulement dans ses derniers écrits, les matinées, pages 162-166, et la lettre aux amis de Lessing, pages 33 et 67. À savoir la maxime de la nécessité dans l'usage spéculatif de la raison, auquel d'ailleurs il accordait excessivement par rapport à la connaissance des objets hyperphysiques, puisqu'il croyait jusqu'à l'évidence de la démonstration, de s'orienter à l'aide d'un moyen de direction certain, qu'il appelait tantôt le sens commun, dans matinée, tantôt la saine raison, tantôt le simple entendement humain, aux amis de Lessing. Qui aurait pu penser que cet aveu dût être si funeste, non seulement à son opinion avantageuse du pouvoir de l'usage spéculatif de la raison en matière de théologie, ce qui était par le fait inévitable, mais que la saine raison commune même, dans cet état d'ambiguïté où il laissait l'exercice de cette faculté en regard de la spéculation, courait le danger de servir de fondement à la superstition et de détrôner la raison. C'est cependant ce qui est arrivé dans le débat entre Mendelssohn et Jacobi, surtout par les raisonnements très sérieux de l'ingénieux auteur des résultats. Note. Lettre de Jacobi sur la doctrine de Spinoza, Breslau, 1784. Jacobi contre l'accusation de Mendelssohn concernant les lettres sur Spinoza, Leipzig, 1766. Les résultats de la philosophie de Jacobi de Mendelssohn, recherche critique d'un volontaire. Fin de la note. Reprise du texte. Mon intention n'est cependant pas d'attribuer à l'un ou à l'autre des deux adversaires le dessein d'introduire une façon de penser si funeste. Je veux plutôt regarder l'entreprise du dernier comme un argument ad hominem, dont il a bien le droit de faire usage pour se défendre, en faisant tourner contre son antagoniste les pauvretés de la polémique. D'un autre côté, je ferai voir qu'en réalité, c'est sur la raison seulement, et non sur un prétendu sens mystérieux de la vérité, sur aucune intuition transcendante qu'on appellerait la foi, que peut être greffée une tradition ou révélation sans consentement de la raison. Ainsi que le soutenait fermement, et avec une ardeur légitime, Mendelssohn, il n'y a tout simplement que la propre et pure raison humaine par laquelle il soit nécessaire, suivant lui, de s'orienter et par laquelle il conseille de le faire. ce qui n'empêche pas assurément de laisser tomber la haute prétention de la faculté spéculative de la raison, surtout son autorité purement impérative par démonstration, et de ne lui accorder comme raison spéculative rien de plus que la mission de purger la notion rationnelle commune de contradiction, et de défendre des maximes d'une saine raison contre les attaques sophistiques de la raison spéculative elle-même. La notion de l'orientation de soi-même, développée et déterminée avec plus de précision, peut nous aider à exposer clairement les maximes de la saine raison dans son application à la connaissance des objets sursensibles. S'orienter signifie, dans le sens propre du mot, d'une région donnée du monde. Nous divisons l'horizon en quatre de ces régions, trouver les trois autres, surtout l'Orient. Si donc je vois le soleil au ciel et que je sache qu'il est midi, je puis trouver le sud, l'ouest, le nord et l'est. Mais j'ai besoin à cet effet de sentir une différence dans mon propre sujet, celle de la main droite et de la main gauche. J'appelle cela un sentiment, parce que ces deux côtés ne montrent extérieurement, dans l'intuition, aucune différence remarquable. Dans le tracé d'un cercle, sans avoir besoin de distinguer en aucune manière les objets, je ne puis cependant me passer de cette faculté pour distinguer le mouvement de gauche à droite d'avec le mouvement contraire et pour déterminer ainsi, a priori, une différence dans la position des objets. Pour savoir si je dois poser l'ouest à droite ou à gauche du point de l'horizon. Je ne m'oriente donc géographiquement avec toutes les données objectives du ciel, qui a l'aide encore d'une raison subjective de distinction. Et si un jour, par miracle, tous les astres, conservant du reste leur forme et leur situation respective, ne présentaient d'autres changements, sinon que leur direction, d'orientale qu'elle était, serait devenue occidentale, aucun œil humain ne remarquerait, la nuit suivante, à la clarté des étoiles, le moindre changement. Et l'astronome lui-même, s'il ne faisait attention qu'à ce qu'il verrait et pas aussi à ce qu'il sentirait, serait infailliblement désorienté. Mais la faculté de distinguer que lui a donné la nature et qui lui est devenue habituelle par un plus fréquent exercice vient à son aide grâce au sentiment de la droite et de la gauche. Et pourvu seulement qu'il jette les yeux sur l'étoile polaire, non seulement il remarquera le changement survenu, mais il pourra s'orienter malgré ce changement. Je puis maintenant étendre cette notion géographique du procédé dans l'orientation et entendre par là l'orientation dans un espace donné en général. Par conséquent, l'orientation purement mathématique. Malgré l'obscurité, je m'oriente dans une chambre que je connais, pourvu seulement que je puisse saisir un objet dont la place est présente à ma mémoire. Mais rien évidemment ne me sert ici que la faculté de déterminer la position d'après une raison subjective de distinguer. Car je ne vois pas les objets dont je dois trouver la position. Et si quelqu'un, par badinage, avait déplacé tous les objets, mais en mettant le même ordre entre eux, sauf cette différence que ce qui était à gauche serait maintenant à droite, et réciproquement, je ne pourrais me retrouver dans une chambre où d'ailleurs les parois seraient égales. Mais je m'oriente aussitôt par le simple sentiment d'une distinction entre mes deux côtés, le droit et le gauche. Même chose arrive si je dois voyager et me diriger de nuit sur une route à moi connue d'ailleurs et où je ne distingue maintenant aucune habitation. Je pourrais étendre encore cette notion, si elle devait consister dans la faculté de s'orienter, non plus simplement dans l'espace, c'est-à-dire mathématiquement, mais en général dans la pensée, c'est-à-dire logiquement. On peut aisément conjecturer, d'après l'analogie, que ce sera là un acte de la raison pure, celui de diriger son usage lorsque, partant d'objets connus, de l'expérience, elle veut s'étendre au-delà des bornes de l'expérience et qu'elle ne trouve absolument aucun objet de l'intuition, mais seulement la place pour cette intuition possible. En effet, elle n'est plus alors en état de soumettre ses jugements à une maxime positive, dans la détermination de sa propre faculté de juger, et en suivant des principes objectifs de la connaissance, elle ne peut le faire qu'en suivant un principe de distinction subjectif. Note. S'orienter dans la pensée, en général, signifie donc, à défaut des principes objectifs de la raison, se déterminer dans le vraisemblable suivant un principe subjectif de cette même raison. Fin de la note. Reprise du texte. Ce moyen subjectif, le seul qui reste alors, n'est autre que le sentiment du besoin propre à la raison. On peut être rassuré contre toute erreur si l'on n'essaie pas de juger toutes les fois qu'on n'en sait pas assez pour juger de façon déterminée. L'ignorance est donc en soi la cause des limites, mais non des erreurs dans notre connaissance. Mais partout où il ne dépend pas autant de nous de vouloir ou de ne vouloir pas juger déterminément de quelque chose, partout où existe un besoin réel de juger, un besoin inhérent à la raison même, et où cependant le défaut de savoir par rapport à ce qui est nécessaire pour juger nous limite, là aussi, est nécessairement une maxime d'après laquelle nous devons porter notre jugement. Car la raison veut être satisfaite. Si donc il a déjà été décidé qu'il ne peut y avoir ici aucune intuition d'objet, pas même quelque chose qui y ressemble, et à l'aide de quoi nous puissions opposer aux notions étendues un objet qui soit d'accord avec elles, et par là nous assurer de leur vérité par leur réalité possible, alors nous n'aurons plus qu'à bien examiner la notion avec laquelle nous voulons nous aventurer, au-delà de toute expérience possible, afin d'être sûr qu'elle est exempte de toute contradiction, et de soumettre du moins le rapport de l'objet avec des objets de l'expérience aux notions pures de l'entendement, non pas pour le rendre sensible, mais cependant pour concevoir quelque chose de sursensible d'une manière au moins compatible avec l'usage expérimental de notre raison. Car sans cette précaution, nous ne pourrions faire aucun usage de cette notion et nous délirerions au lieu de penser. Par là cependant, c'est-à-dire par la simple notion, rien n'est encore décidé par rapport à l'existence de cet objet ou de sa liaison réelle avec le monde, ensemble de tous les objets de l'expérience possible. Mais il y a là le droit du besoin de la raison, comme d'un motif subjectif de présupposer et d'admettre quelque chose qu'elle ne peut prétendre savoir par des considérations subjectives. Elle ne peut donc pas non plus avoir la prétention de ne s'orienter que d'après son propre besoin, dans la pensée, dans l'espace incommensurable du sursensible, pour nous remplir des plus épaisses ténèbres. On conçoit beaucoup de choses sursensibles, car des objets des sens ne remplissent pas le champ total de l'entière possibilité, où la raison cependant n'éprouve aucun besoin de s'étendre jusque-là, et bien moins encore d'en admettre l'existence. La raison trouve une occupation suffisante aux causes cosmiques qui se manifestent aux sens, ou qui sont du moins de même nature que celles qui se montrent aux sens. Pour n'être pas dans la nécessité d'admettre à leur secours l'influence d'êtres naturels, purement spirituels. Cette hypothèse serait plutôt nuisible à son usage, car ne sachant rien des lois, suivant lesquelles de semblables êtres pourraient agir, et sachant beaucoup de choses des objets des sens, pouvant espérer du moins d'en connaître beaucoup de choses par l'expérience, on porterait plutôt atteinte, par une semblable supposition, à l'usage de la raison. Ce n'est pas absolument un besoin, mais bien plutôt une pure curiosité, qui n'aboutit qu'à des rêveries, que de se livrer à de semblables recherches, ou de jouer avec des fictions de cette nature. Il en est tout autrement de la notion d'un être premier, comme intelligence suprême, et comme souverain bien en même temps. Car ce n'est pas seulement un besoin pour notre raison de donner la notion de l'infini pour fondement de la notion du fini, par conséquent à toutes les autres choses. Mais ce besoin va même jusqu'à la supposition de l'existence de l'infini. Note. la raison ayant le droit de supposer comme donnée une réalité qui explique la possibilité de toute chose, et ne considérant la diversité des choses déterminées par les négations qui s'y attachent que comme des limites, elle se voit forcée de poser en principe une possibilité unique, celle de l'être illimité comme origine, et de considérer tous les autres comme dérivés. Et comme la possibilité constante de chaque chose doit se rencontrer absolument dans l'ensemble de toute existence, que c'est là du moins la condition sous laquelle le principe de la détermination constante rend possible aux yeux de notre raison la distinction entre le possible et le réel, nous trouvons une raison subjective de la nécessité, c'est-à-dire un besoin de notre raison même, de donner pour fondement à toute possibilité l'existence d'un être parfaitement réel, suprême. De là donc la preuve cartésienne de l'existence de Dieu. Puisque les raisons subjectives de supposer quelque chose pour l'usage de la raison, qui n'est jamais au fond qu'un usage expérimental, sont réputées objectives, par conséquent, un besoin pour une vue de l'esprit. Il en est ainsi de la preuve cartésienne et de toute épreuve de l'honorable Mendelssohn dans ses matinées. Elles sont inutiles pour une démonstration, mais elles ne sont pas inutiles absolument, car pour ne pas parler de la belle occasion que ces développements tout à fait subtils des conditions subjectives de l'usage de notre raison donnent de connaître parfaitement cette faculté, et dont ils sont des exemples permanents, la croyance, fondée sur des motifs subjectifs de l'usage de la raison, quand les motifs objectifs font défaut, et que nous sommes cependant forcés de juger, est toujours de quelque importance. Seulement nous ne devons pas donner pour un libre aperçu ce qui n'est qu'une supposition. Afin de ne pas laisser voir sans nécessité à un adversaire avec lequel nous nous sommes permis de dogmatiser des faiblesses dont il peut abuser contre nous. Mendelssohn ne pensait guère que dogmatiser avec la raison pure dans le champ de sursensible est la grande route de la superstition philosophique, et que la critique de la même raison peut seule apporter un remède radical à cette infirmité. Il est vrai que la discipline de la méthode scolastique, de celle de Wolff par exemple, qu'il recommande aussi pour cette raison, déterminant toutes les notions par des définitions, et tous les pas faits devant être justifiés par des principes, peut empêcher pour quelque temps ce désordre, mais elle ne peut pas le prévenir entièrement. Car de quel droit interdirait-on à la raison, qui de son propre aveu a déjà si bien réussi dans ce champ, d'y pénétrer plus avant? Ou donc alors est la limite qu'elle ne doit pas franchir? Fin de la note. Reprise du texte. Car ce n'est pas seulement un besoin pour notre raison de donner la notion de l'infini pour fondement à la notion du fini, par conséquent à toutes les autres choses. Mais ce besoin va même jusqu'à la supposition de l'existence de l'infini. Sans cela, elle ne peut se donner aucune raison satisfaisante de l'existence des choses dans le monde, et moins encore, s'expliquer la finalité et l'ordre qui se rencontrent partout, à un degré si étonnant, dans les petites choses, parce qu'elles sont près de nous, comme dans les grandes. À moins d'admettre un créateur intelligent, on ne peut, du moins sans tomber dans de pures absurdités, en donner aucune raison intelligible. Et quoique nous ne puissions pas prouver l'impossibilité d'une telle finalité sans une cause intelligente, car alors nous aurions des raisons objectives suffisantes de cette assertion, et nous ne serions pas dans la nécessité de nous en rapporter à des raisons subjectives. Il reste encore, malgré ce défaut de lumière, une raison subjective suffisante de l'admettre, en ce sens que la raison a besoin de supposer quelque chose qui lui soit intelligible, pour expliquer par là le phénomène donné, puisque tout ce à quoi du reste elle peut seulement rattacher une notion ne peut la satisfaire. La suite se trouve sur le deuxième MP3 de ce billet.